Radio Courtoisie,
indépendance totale.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.
J'en profite pour, il y a un auditeur qui me fait remarquer très justement qu'effectivement c'est Camus qui a dit mal nommer les choses s'est ajouté au malheur du monde, et que je pense qu'on a confondu avec Peggy qui disait dire la vérité, simplement la vérité, etc.
Exactement.
Bref,
je confirme.
Donc Louis Rigaudière, qui est visiblement plus cultivé que moi,
évidemment.
Je vais vous laisser partir sur votre chronique.
Merci Alexandre et bonjour à tous. J'aimerais commencer cette chronique par un extrait signé France Inter et qui m'a beaucoup surpris.
En France, le début de l'effondrement de l'empire de la désinformation, de la fake news aussi. Les médias et maisons d'édition de la sphère du milliardaire Bolloré sont en perte de vitesse ou secouées par des frondes internes. La chaîne de propagande française CNews a vu ces derniers mois ses audiences s'écrouler. La maison d'édition Grasset, des éditions Hachette, fait elle face à une crise de confiance. Plus de 170 auteurs, 300 au total de l'univers de l'édition, rejettent le mercato de l'édition avec l'arrivée de la nouvelle égérie de l'extrême droite et du sionisme en France. Boualem Sansal, on en parlera en deuxième partie d'émission.
Ah non, pardon. Veuillez m'excuser, cet extrait venait de la télévision algérienne. Et c'est sans doute ça qui m'a surpris. De voir qu'il est si facile de confondre ces deux médias qui utilisent les mêmes éléments de langage, que ce soit pour Bolloré, l'infâme extrême droite ou encore Boualem Sansal. Et d'ailleurs, Boualem Sansal a refait parler de lui récemment, après avoir tenu des propos pour le moins surprenants.
La France est finie pour moi.
Ah ben justement, vous avez un certain détachement avec
ça. Non, c'est fini. Il me reste quelques mois à tirer dans ce pays et je me tire. J'ai quelques années à vivre, tranquille, voilà, je vais aller, je ne sais pas où, chez les Belges s'ils veulent de moi, ou ailleurs, tranquille, j'écris des livres, ils veulent les publier, ils les publient, ils ne veulent pas, ils ne publient pas, c'est tout. Mais c'est fini, la France pour moi, c'est fini.
Bon, très bien. On peut comprendre l'agacement, après cette vague d'attaques de la gauche contre lui et ses livres, mais décider de s'exiler en Belgique, franchement, l'un des rares pays dont la situation migratoire est encore pire que la France. Pas sûr qu'il trouve la paix, bien au contraire. Et sur cette immigration, justement, le grand remplacement a vu naître un nouveau nom venant de l'écrivain Éric Orsenna.
Tout ce côté de vitalité, d'humour qui peut exister, de la musique, de l'art, ce qu'on doit à l'Afrique, à la fois dans la musique moderne et aussi dans l'art. Vous imaginez, regardez ce que disait Picasso de tout ce qui vient là. Et donc, moi j'ai eu, et puis...
Être irrigué par ça, vous voudriez, la vieille Europe
irrigué,
pour être renouvelée
irrigué,
de l'intérieur.
C'est, à mon sens, ce qui va vraiment se passer. C'est pas le grand remplacement, c'est la grande irrigation.
La grande irrigation, c'est beau, c'est poétique même. Que de circonvolutions lexicales pour ne pas admettre que la France suit la voie d'un bidonville géant dans lequel s'épanouiront nos petits-enfants. L'idée est là, mais les mots manquent. Notre chroniqueur, Arthur de Vatrigan, détaille le profil pas surprenant du tout d'Éric Orsenna.
Alors on connaissait le grand remplacement de Jean-Luc Mélenchon. On découvre la grande irrigation. Tiens, la grande irrigation, ça vous parle ou pas ?
Oui, bien sûr, ça me parle beaucoup. Surtout pour arroser mes plantes en temps de sécheresse. Peut-être que la France est sèche.
Vous n'avez pas le droit, non.
Mais Éric Orsenna, ce n'est pas n'importe qui. Hein. Ce n'est pas un obscur sociologue, ce n'est pas un chercheur du CNRS. Académicien, prix Goncourt, ex-plume de François Mitterrand, ex-conseiller culture de François Mitterrand. C'était un des premiers soutiens d'Emmanuel Macron. Il paraît que, d'après lui, Nicolas Sarkozy lui a proposé 3 fois d'être ministre. C'est un homme qui est passé par le Conseil d'État, par la francophonie, par les commissions, par les cercles d'influence politique et financière. Comme on dit, c'est un type qui pèse dans le game. Donc c'est un homme de palais qui a traversé toutes les époques en étant toujours collé au pouvoir. C'est une sorte de Talleyrand version boomer, si vous voulez. Et c'est précisément pour ça que sa phrase est intéressante. Parce que la grande irrigation, c'est une formule très orsénienne, c'est-à-dire assez liquide, en fait, finalement. C'est pas seulement l'écrivain qui parle, c'est le VRP d'un monde. Et le VRP d'un monde qui est celui d'une élite française qui, depuis 40 ans, pense et accompagne toutes les grandes transformations du pays et qui sont toujours surprises que les Français le prennent mal.
Encore un intellectuel très proche des cercles du pouvoir qui a tout fait pour permettre l'élection de Macron. Et même si aujourd'hui, les relations semblent s'être refroidies, un peu comme Bruno Retailleau, qui ne cesse d'affirmer sa rupture avec le président. Et heureusement que les archives existent.
Emmanuel Macron, vous connaissez Bruno Retailleau, le patron du groupe UMP ici au Sénat. Merci de nous rejoindre. Je termine une petite question avec Emmanuel Macron. Évidemment, si vous voulez poser une question.
Non, mais écoutez, il a une coiffure qui est toute fraîche. Et donc, vraiment, c'est important de lui poser les questions. Il est là pour ça, il va vous répondre.
D'accord.
Bon, il faut dire pourquoi.
Vous voulez que je lui pose une question, parce qu'on n'a pas bien compris.
Nous passons notre vie ensemble avec Bruno Retailleau. C'est pour ça qu'il a pu mesurer.
Dans l'hémicycle, ludiquement. Hein.
Que j'avais pu aller chez le coiffeur à l'heure de la pause méridienne.
Bah, vous avez eu le temps, c'est bien.
C'est magnifique, une telle amitié. C'est beau, une telle complicité, touchant même. De toute façon, afficher sa proximité avec le président, ça peut être très, très rentable. Il n'y a qu'à voir comment le chef de l'État rend service à tous ses copains en les recasant à des postes prestigieux.
Sa Majesté nomme enquête sur un pouvoir présidentiel exorbitant et c'est aux éditions Robert Laffont. Alors ce pouvoir exorbitant en question, c'est le pouvoir de nomination. Et je pensais à votre livre ce matin, quand j'ai lu chez nos confrères de Politico, un site généralement bien informé, que le nom d'Éric Dupond-Moretti, ancien garde des Sceaux, commençait à circuler pour obtenir le poste de défenseur des droits. Je me suis dit, mais ma parole, Amélie de Montchalin, ne vient-elle pas d'être nommée première présidente de la Cour des comptes ? Richard Ferrand fut nommé en son temps président du Conseil constitutionnel. Est-ce qu'on est à un moment où le président Emmanuel Macron se met à nommer tous azimuts des proches au poste clé de la République. Et votre livre, en fait, c'est une mine parce que ça raconte qu'il n'y a pas que ces postes-là, que c'est un pouvoir considérable. Je le disais en introduction de cette émission, c'est au moins 5000 postes, c'est ça ?
Alors, il y a plusieurs... En fait, j'ai demandé des estimations à la fois à l'Élysée, à Matignon, mais je n'ai pas eu les mêmes chiffres, forcément. C'est-à-dire que c'est...
On ne sait pas combien de personnes
nomment le président. Après, il y a des nominations qui passent en Conseil des ministres, il y a celles qui ne passent pas en Conseil des ministres. Mais la plupart des estimations, beaucoup d'estimations ont convergé autour de 5000. Après, j'ai eu une estimation qui allait jusqu'à 10 000.
10 000, rien que ça. Le recasage à échelle industrielle est devenu monnaie courante et Macron est sans doute le président qui en a le plus abusé au cours de son règne. Mais ses privilèges donnent des idées à certains, comme ce maire qui, à peine élu, triple son salaire.
C'est une décision qui fera date. Nicolas Naudet, nouveau maire de Soisy sous Montmorency, a fait voter une hausse de sa rémunération.
Mon indemnité est proposée à 4 100 € bruts,
soit une augmentation de 173% de son salaire. Du jamais vu en France, il s'en justifie.
Mon prédécesseur avait par ailleurs plusieurs mandats qui ne lui permettaient pas d'avoir une indemnité à ce niveau-là en mairie. Volontairement, il l'a diminué.
En théorie, l'indemnité maximale touchée par le maire de Soisy sous Montmorency est de 2 778 € bruts en moyenne en France. Dans les villes de moins de 20 000 habitants, les maires touchent 2 670 €.
Les dérives sont devenues légion et tous les groupes politiques semblent touchés. Et la Macronie n'est bien sûr pas en reste. Mais elle a en plus le culot de moraliser tout et n'importe quoi, alors que les affaires judiciaires de leur camp sont incalculables. Liste non exhaustive de feu Olivier Marleix.
11 condamnations dans la majorité, dont celle de violence envers une ex-compagne, avec refus du bureau de l'Assemblée nationale de lever l'immunité parlementaire du député concerné, et un autre condamné pour harcèlement sexuel envers une collaboratrice. 8 mises en examen, dont celle du secrétaire général de la présidence de la République, excusé du peu, et, pardon, monsieur le garde, celle du garde des Sceaux, accusé l'un et l'autre de prise illégale d'intérêt. 12 enquêtes en cours, dont une concerne le ministre du Travail pour favoritisme. 13 mises en examen pour un seul homme, champion de France, toute catégorie, du nombre de mises en examen, accusé notamment de fraude fiscale, emploi fictif, financement illicite de dépenses électorales, cet homme qui n'est autre que le conseiller politique du président de la République.
Il y a les affaires judiciaires, mais surtout le bilan économique. Et là, je vais laisser la parole à Marc Toiti, qui ne cesse d'alerter sur nos finances publiques et l'héritage dystopique que va nous léguer le chef de l'État.
Qui était au pouvoir depuis 2017, et même un petit peu avant, parce qu'il était ministre de l'économie. Donc là, il a un discours de candidat, il nous dit « voilà ce qu'il faudrait faire ». Pourquoi ne l'a-t-il pas fait avant ? Bien entendu, on a une économie française qui est complètement bloquée. Qu'a-t-il fait ? Ben, c'est pas compliqué, il a fait cette fuite en avant permanente, il a augmenté la dette publique française, tenez-vous bien, de 1 300 milliards d'euros depuis qu'il est là. Mais à la rigueur, si mon PIB, c'est-à-dire la richesse qu'on crée en France, a augmenté davantage, on dit « bon, c'est pas grave, au diable l'avarice, ça valait le coup ». Sauf que le PIB français, sur la même période, je répète le chiffre, 1 300 milliards, PIB français augmenté de l'inflation, 800 milliards de hausse. Il manque 500 milliards d'euros qui ont disparu du circuit économique. C'est un véritable scandale. Et on vient nous donner des leçons. Et on vient justement avoir ce mépris à l'égard des Français qui souffrent au quotidien. Moi, j'ai tous les jours des chefs d'entreprise qui m'appellent, de PME, de grosses PME, d'ETI. Il y a des faillites d'entreprises historiques. Et ça, c'est pas avec la guerre au Moyen-Orient. C'était déjà le cas en 2025. En février, donc 2026, on atteint un nouveau record historique de faillites d'entreprises.
Et ce qu'il y a de pire dans tout ça, je le répète maintenant depuis plusieurs chroniques, c'est qu'Édouard Philippe pourrait lui succéder. Et je fais partie de ces pessimistes, comme Mathieu Bock-Côté, qui pensent que les Français, dans leur ensemble, se coucheront à nouveau face à un front républicain.
Ça serait intéressant d'avoir un duel Édouard Philippe, pourquoi pas, Marine Le Pen ou Jordan Bardella, parce que c'est un vrai choix de société. Et puis après, chacun choisirait ce qu'il souhaite.
Bien sûr, si je peux me permettre, mais cela dit, il y a une différence de fond entre le système qui décide de se rassembler autour d'Édouard Philippe, qui est un homme de qualité, la question n'est pas là, mais qui peut fédérer tout le syndicat de ceux qui veulent à tout prix se maintenir. Et de l'autre côté, un parti où on ressortira la cassette antifasciste comme il se doit, donc on reconduira l'interdit qui remonte, qui traverse une quarantaine d'années.
Oui, mais peut-être que les Français n'entendront plus cet interdit.
Ah, moi, ouais. Je pense qu'ils l'entendent bien plus qu'on le dit. Ouais. Contrairement à ce qu'on pense, le cordon sanitaire fonctionne, le front républicain fonctionne, l'extrême droitisation fonctionne, la fascisation fonctionne. Les gens finissent par se coucher parce qu'ils ont été conditionnés à l'idée de dire un instant, on va voter pour des fascistes, couchons-nous.
Donc vous pensez que Édouard Philippe, Marine Le Pen, c'est Édouard Philippe qui gagne?
Je crois que oui.
Voilà, qui a le don de nous déprimer encore un peu plus. Et je conclurai cette chronique par cette archive de Jean-Marie Le Pen, qui, dans les années 80, ne se trompait pas de combat. Et appelé à voter pour le bon candidat, ou plutôt la bonne candidate.
Pour qui est-ce que vous avez voté au premier et au second tour des élections de 81?
Au premier tour, je n'ai pas voté. Je me suis abstenu.
Au second?
Et au second tour, j'ai demandé d'ailleurs publiquement que l'on votât pour Jeanne d'Arc.
Voilà, les combats ne changent pas, seul le nom des traites se renouvelle. Passer de Jeanne d'Arc à Édouard Philippe, voilà de quoi bien nous désespérer pour 2027. Mais rien n'est encore perdu. À la semaine prochaine pour peut-être retrouver un peu d'espoir.
Mais oui, il faut retrouver de l'espoir. Voilà. Il ne faut pas le perdre déjà. Et ensuite, il faut le retrouver, effectivement. Merci, Louis Rigaudière, le rappeler. Et écoutez, on vous retrouve la semaine prochaine pour votre
plaisir,
chronique.
Avec voilà. Plaisir, la semaine prochaine.
Ligne droite, l'analyse.
Et pour cette analyse, nous avons le plaisir de recevoir Emmanuel de Gestas. Emmanuel de Gestas, vous êtes journaliste indépendant et vous nous revenez d'Ukraine. D'Ukraine, où vous avez passé 3 semaines, il me semble.
Tout à fait, absolument.
Voilà. Et alors, ce qui est particulièrement... Enfin, déjà, première question toute simple. Pourquoi avoir choisi de se rendre sur le front à l'heure où, effectivement, c'est un sujet qui est de moins en moins présent, on va dire, dans le débat public, il semble que la guerre en Iran a monopolisé la tension géopolitique. Quel est l'intérêt de parler de l'Ukraine, justement, aujourd'hui?
Déjà, merci pour votre invitation. Pourquoi est-ce que je me suis rendu en Ukraine? Et bien, justement, comme vous le soulignez, parce que ce conflit est en train de passer sous les radars. C'est vrai qu'il y a une forme de lassitude en Europe occidentale, notamment en France, ici. On ne parle plus de l'Ukraine, à la fois pour des raisons, effectivement, vous le rappeliez, d'actualité, c'est-à-dire que l'actualité va très très vite, je ne vous apprends rien. Et donc, effectivement, la guerre en Iran a écrasé, entre guillemets, médiatiquement, ce conflit. Pour autant, ce conflit, en fait, il continue. Il ne s'arrête pas. Et j'ai voulu me rendre là-bas pour vous observer, pour essayer de comprendre... Comment est-ce qu'un peuple, en tant que tel, en tant que peuple, en tant que nation, résiste et vit quand il est menacé dans son existence, dans son identité, dans sa souveraineté même? J'ai voulu comprendre et observer et voir ça. Et donc c'est pour ça que je me suis dit, j'ai l'occasion de y aller, je vais le faire, et donc je l'ai fait. Et donc effectivement, pendant 3 semaines, je me suis un petit peu baladé là où je pouvais aller, pour effectivement observer, écouter... et puis ensuite, comme dirait Peggy, voir ce que je vois et puis dire ce que je vois.
D'une certaine façon, on a l'impression que vous parlez du peuple ukrainien. La matérialité de l'existence du peuple ukrainien, c'est un sujet qui est, c'est un point qui est sujet à débat, oui. À bien des reprises. En tout cas, quelque chose qu'on a l'impression d'observer, c'est que justement cette guerre contre la Russie a très largement participé à forger l'identité ukrainienne.
Mais vous avez tout à fait raison, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un classique dans l'histoire, c'est-à-dire qu'en fait, quand vous avez un peuple qui cherche à en asservir un autre, notamment le processus classique, c'est de nier l'existence de ce peuple. C'est de dire, bon, c'est le cas des Russes, les Ukrainiens n'existent pas, il n'y a pas de nation ukrainienne. Je renvoie nos auditeurs à ce texte très intéressant, terrible, mais très intéressant, de Vladimir Poutine lui-même, qui est encore disponible au moment où je vous parle sur le site du Kremlin. J'ai vérifié hier soir en préparant cette émission, qui s'appelle « De l'unité des Ukrainiens et des Russes ». C'est un texte qu'il a publié sur le site du Kremlin en forme d'essai, en forme d'article, le 12 juillet 2021, donc quelques mois avant le début de l'opération militaire spéciale, comme ça qu'on appelle la guerre en Ukraine, c'est-à-dire l'invasion à grande échelle commencée le 24 février 2022. Et en fait, dans ce texte, Vladimir Poutine développe en fait sa théorie du ce qu'on appelle le Ruski Mir, le monde russe, où en fait il explique qu'en gros il n'y a aucune différence entre l'Ukraine et la Russie, et que ce sont deux peuples frères. Et dans un autre registre, vous avez au cours de l'histoire un certain nombre de peuples qui en asservissaient d'autres et qui niaient l'existence d'autres peuples sous leur joug.
Oui.
Et donc en fait, en réaction, si vous voulez, quand il y a un affrontement, et ben ça a tendance au contraire à créer un sentiment national et un sentiment identitaire distinct chez ces peuples en réaction à l'impérialisme et à la tentative de destruction de ce peuple.
C'est presque, quelque part, par souverainisme plus que par identité profonde que les Ukrainiens se sont soudés durant cette guerre.
Absolument, oui, bien sûr. Alors, déjà, il y a quand même, quoi qu'on en dise, une identité ukrainienne depuis longtemps.
Oui, mais qui fait partie de la sphère, on va dire, russe, slave. Enfin, on va dire, c'est presque comme une forme de... de régionalisme ou de particulier.
Initialement, oui. Alors cependant, oui, effectivement, dans l'absolu, il y a vu d'ici. Vous dites après tout les Ukrainiens, les Russes. Là, vu d'ici, ouais, c'est pas très différent. En réalité, par exemple, j'ai découvert quand j'étais en Ukraine que, par exemple, la langue ukrainienne était beaucoup plus proche linguistiquement du polonais.
Ouais.
Que du russe.
Parce qu'on a toujours entendu justement que les Ukrainiens et les Russes pouvaient mutuellement se comprendre en termes de langage. Et,
de fait, la plupart des Ukrainiens, notamment ceux qui ont connu l'Union soviétique, qui ont notamment grandi, qui ont été à l'école sous l'Union soviétique, parlent russe. Naturellement, les personnes de plus de 40 ans, moi j'en ai même été témoin, naturellement ils me parlaient russe. Pour autant, ça ne veut pas dire que parce qu'ils sont russophones, parce qu'en fait, ils ont appris le russe à l'école quand ils étaient dominés par l'Union soviétique avant 91 et l'indépendance de fait de l'Ukraine. Ça ne veut pas dire parce qu'ils sont russophones, ils sont forcément pro-russes, pas du tout. Ça, c'est un lieu commun qu'on entend beaucoup ici en Europe occidentale. Russophone égale pro-russe, c'est totalement faux. Je me permets une toute petite incise. Concernant, par exemple, le président ukrainien Volodymyr Zelensky, je rappelle une chose. Volodymyr Zelensky, avant qu'il soit élu président, était donc comédien, était donc acteur. Il était russophone. Il était russophone. Avant, il parlait mieux russe qu'ukrainien. Il était considéré comme un russophone. Il a fait toute une partie de sa carrière dans les médias russes. Et quand il a été élu président de l'Ukraine en 2020, si j'ai bonne mémoire, il a été élu sur un programme qu'il a d'ailleurs essayé de mettre en œuvre au début de son mandat, de rapprochement avec la Russie, d'essayer de calmer le jeu avec la Russie.
Ouais.
Et en fait, en réalité, l'invasion à grande échelle l'a complètement rattrapé. Et donc, de fait, il s'est retrouvé en position où en fait, il doit toujours continuer à résister à l'impérialisme russe. Donc en fait, la situation de dire, de un peu grossière, qui consiste à dire, en gros, ukrainien de l'Ouest, ukrainophone, gréco-catholique, nationaliste et anti-russe, et puis ukrainien de l'Est, russophone, orthodoxe, dirigé vers Moscou, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Il y a beaucoup de mélange, c'est-à-dire qu'en fait, beaucoup de gens, je me souviens d'une jeune femme que j'avais rencontrée un peu par hasard, avec qui j'avais échangé, et qui m'avait une jeune femme ukrainienne qui m'expliquait que du côté de son père, elle venait de Galicie, c'est-à-dire la Galicie orientale, c'est-à-dire le coin de Lviv, en fait, les Carpates, le coin de Lviv, c'est quasiment en Pologne, une partie de la Galicie occidentale se trouve en Pologne. Et puis du côté de sa mère, elle venait du Donbass. Sa mère était née dans le Donbass, c'est-à-dire dans la fameuse région dite russophone. Et en fait, et tout ce monde-là, oui, c'est comme la France, en fait. Vous avez des Corses, des Basques, des Picards, et tous ces gens-là sont souvent très différents les uns des autres, mais pour autant, ils sont quand même français.
Alors justement sur la russophilie aussi. Donc maintenant qu'on a parlé de la russophonie, la russophilie aussi. Est-ce que on est dans une situation où aujourd'hui l'intégralité du peuple ukrainien fait front justement dans cette guerre? Est-ce que on est justement sur une unité nationale absolue derrière Zelensky? Est-ce qu'au contraire c'est quelque chose, enfin le personnage lui-même est discuté? Est-ce que tout le monde est d'accord sur le fait qu'il faut soit poursuivre soit arrêter la guerre? Quelle est justement la mentalité sur justement la poursuite de cette guerre et sur les dirigeants?
Alors de facto, il y a une unité nationale. En fait, je vais faire un petit parallèle. Moi, depuis que je me suis rendu sur place, déjà avant, mais là, ça m'a été vraiment très frappant. ce conflit, le conflit, pour énormément de points de vue, je suis pas sûr d'avoir le temps de développer, mais ce conflit, en fait, pour moi, c'est 14-18. Mais vraiment, même d'un point de vue purement militaire, purement sur le front, c'est 14-18. Mmh. Et donc, pourquoi j'évoque ça ? Parce qu'il y a effectivement ce qu'on a appelé en France pendant 14-18 l'union sacrée, c'est-à-dire que tous les partis politiques soutiennent de facto le président et sont derrière lui, et il y a un élan patriotique très très fort pour en fait chasser l'envahisseur, chasser les Russes, et effectivement espérer reprendre les territoires perdus, c'est-à-dire le Donbass et la Crimée.
Crimée, pour le coup, ça reste un sujet là-bas, alors que bon, évidemment, on sait que ça fait maintenant 12 ans, je crois, que oui, 2015, la Crimée appartient à la Russie, enfin en tout cas est contrôlée par la Russie. Ça fait quand même justement un certain temps que c'est le cas. Évidemment, la guerre en plus s'est lancée plus dans le Donbass et dans d'autres oblasts. D'une certaine façon, comment ça se fait que même le sujet de la Crimée reste sur la
alors,
table?
En fait, je vais vous répondre et puis en même temps répondre à votre première question. La question initiale que vous m'avez posée, il y a deux choses. D'une part, il y a la constitution ukrainienne. C'est-à-dire que la constitution ukrainienne, c'est inscrit dans leur loi fondamentale, elle interdit de céder le moindre pouce de territoire, de territoire ukrainien à quelqu'un. C'est-à-dire qu'en fait, légalement, d'un point de vue juridique et constitutionnel, le président Zelensky n'a pas le droit de signer un traité où il reconnaîtrait la souveraineté d'un autre pays que le sien.
C'est d'ailleurs dans la constitution française aussi, je précise.
Bien sûr, c'est dans le cadre de beaucoup de constitutions, c'est tout à fait logique, en fait. C'est le principe de la souveraineté nationale, qui est d'abord une souveraineté géographique, c'est-à-dire un contrôle d'un territoire effectif par un pays donné qui est juridiquement reconnu. Et je rappelle quand même que la Russie, en 1991, quand l'Union soviétique s'est effondrée, que la Fédération de Russie a pris la suite, la Fédération de Russie a reconnu, et reconnaît d'ailleurs de facto toujours, en tout cas juridiquement, les frontières actuelles, enfin les frontières de jure juridiques de l'Ukraine. C'est-à-dire que quand la Russie envahit, d'abord annexe la Crimée avec les fameux petits hommes en vert en mars 2015, puis ensuite l'invasion à grande échelle, à partir de février 2022, elle viole non seulement le droit international, mais elle viole des traités qu'elle a elle-même signés. C'est pas le cas, si vous voulez, pour prendre une analogie, c'est pas le cas par exemple de la Serbie avec le Kosovo. C'est-à-dire que quand le Kosovo fait sécession en 2008 et proclame son indépendance, à aucun moment Belgrade, et c'est toujours le cas, ne reconnaît l'indépendance de facto de Pristina.
Oui.
Alors que ce n'est pas le cas de Moscou. Moscou elle a reconnu en 91 que le Donbass, que la Crimée, que toutes ces régions, tous ces oblasts que maintenant elle réclame, en tout cas qu'elle considère comme sien, étaient ukrainiens. Et d'ailleurs, je rajoute un tout dernier petit élément, on nous parle souvent des référendums et de la population russophone. Je rappelle qu'en 91, il y a eu en fait des référendums en Ukraine pour savoir quelle allait devenir l'ex-république socialiste soviétique ukrainienne. Est-ce qu'elle restait rattachée à la Fédération de Russie ou est-ce qu'elle devenait un État indépendant ? Dans le Donbass, donc dans les fameux oblasts, de Donetsk et de Lugansk, qui sont aujourd'hui de facto contrôlés pour partie par la Fédération de Russie, par les forces armées de la Fédération de Russie, 92% des populations de l'époque avaient voté en faveur du rattachement à l'Ukraine. Donc, si vous voulez, ça me paraît assez clair. Ça, c'est pas des opinions, c'est des faits. Hein. C'est très factuel.
Revenons donc au terrain, encore une fois, sur les Ukrainiens. Encore une fois, sur la question, est-ce que les en fait, parce qu'il y a quelque chose qu'on entend souvent, c'est qu'effectivement, déjà plusieurs points. D'abord que la jeunesse ukrainienne, particulièrement masculine, est saignée par cette guerre et qu'il y a des recrutements forcés même qui arrivent. D'un autre côté, on entend aussi que les dirigeants ukrainiens, eux, seraient jusqu'au boutiste dans cette guerre et d'une certaine façon ne seraient pas intégralement soutenus par le peuple ukrainien et qu'en gros ils enverraient leur propre population à l'abattoir. Est-ce que c'est un sentiment que vous avez eu ou pas du tout?
Alors, effectivement, ça rejoint votre première question. Vous avez raison de la poser parce que j'ai effectivement, comme j'ai fait quelques petites incises, j'ai pas eu le temps de répondre complètement. Donc, vous avez raison de me relancer. Good job. écoutez, en réalité, oui, il y a deux éléments. Je vais aller ça très vite. Il y a deux éléments. Il y a ce que les Ukrainiens veulent et ce dont les Ukrainiens sont conscients. Il y a ce qu'on appelle le wishful thinking, pardonnez-moi l'anglicisme.
Oh c'est affreux, Emmanuel de Gestas.
Je vais me faire tuer en régie.
Bah oui.
Surtout ici, on n'aime pas les anglicismes, mais vous avez tout à fait raison. Non, il y a ce que les Ukrainiens.
La pensée magique,
Il y a la pensée magique. Enfin, il y a ce que les Ukrainiens veulent et ce qu'ils estiment réaliste. Ce que les Ukrainiens veulent, c'est effectivement récupérer la totalité de leur territoire. Maintenant, ils ne sont quand même pas idiots. Ils ont compris que la situation était figée. Ils savent pertinemment aujourd'hui que non, ils ne reprendront pas l'intégrité du Donbass.
Oui.
Non, il y a peu de chances qu'ils reprennent la Crimée. Ils se bercent pas d'illusions non plus.
Ouais. Donc ils savent qu'ils ne veulent pas gagner la guerre au sens strict.
Alors en fait tout dépend de ce dont on entend.
Gagner
la guerre, absolument. En fait, si vous voulez, en février 2022, gagner la guerre pour eux, c'était effectivement récupérer la Crimée, récupérer l'intégralité du Donbass. Parce que je rappelle quand même, et vous le savez, mais je le rappelle quand même, qu'en réalité, l'occupation du Donbass par les Russes, elle n'a pas commencé en 2022, elle a commencé en 2014 avec les fameux séparatistes qui ont en fait été soutenus discrètement, puis en fait de moins en moins discrètement avec le temps jusqu'à l'invasion généralisée par les Russes. En réalité, puisqu'en fait, ces séparatistes ont été en fait dès le départ, ce sont des groupes qui ont été soutenus et même inspirés par le FSB, oui, par les services de renseignement russes. Hein. Igor Girkin, par exemple, ou dit Igor Strelkov, pardon, qui était un des premiers leaders séparatistes du Donbass dès mars 2014. En fait, c'était un officier du GRU, les services de renseignement de l'armée russe. Bon, et donc je reviens, pardon, excusez-moi, à votre question initiale. Les objectifs de victoire des Ukrainiens en 2022, c'était effectivement, on reprend l'intégralité de notre territoire. Au moment où on se parle là maintenant, les objectifs les plus ambitieux, les plus réalistes, ce serait un scénario à la nord-coréenne, c'est-à-dire un gel de la ligne de front et puis des garanties de sécurité pour la partie ukrainienne qui permettent d'éviter que les Russes, à l'occasion de ce qu'on appelle une pause stratégique, c'est-à-dire un arrêt des combats momentanés, puissent reconstituer leurs forces et notamment leur ligne d'approvisionnement énergétique et puis logistique en termes d'armement et en termes d'énergie, parce que c'est fondamental pour mener une guerre, puissent recommencer et réattaquer. Ouais. En fait, là où le bas blesse, si vous voulez, c'est que le problème, c'est que la partie russe ne veut pas des garanties de sécurité proposées par la partie ukrainienne. Notamment, je prends l'exemple de garantie de sécurité qui a été évoquée à plusieurs reprises, c'est par exemple le fait de déployer, non pas directement sur le front, mais à l'arrière, à quelques centaines de kilomètres de la ligne de front en tant que telle, des forces qu'on appelle de réassurance, notamment des militaires occidentaux, notamment des militaires français qui avaient été proposés.
Et pas pour combattre.
Par Emmanuel Macron. Mais en fait, Emmanuel Macron, quand il a dit à plusieurs reprises qu'il n'était pas hostile à l'envoi de troupes militaires françaises en Ukraine, c'est ça dont tu voulais parler. C'est-à-dire que beaucoup de gens ont sauté sur leur chaise en hurlant, en disant c'est scandaleux, ils veulent nous emmener dans une guerre. C'était pas du tout le sujet. Le sujet d'Emmanuel Macron, quand il a annoncé ça, c'était une force de réassurance, c'est-à-dire une force qui sert en fait de garantie de sécurité pour l'Ukraine, qui en fait sert de force de dissuasion pour dissuader donc les Russes de réattaquer après à l'occasion d'une éventuelle pause stratégique. C'est ça le sujet. Et en fait, je vais rapidement terminer. Le problème, donc les Ukrainiens là-dessus, ils sont réalistes, ils sont prêts en fait à faire des concessions et en fait à condition d'avoir ces garanties de sécurité. Et là où le bas blesse, c'est qu'en fait la partie russe, la partie adverse, la partie ennemie ne veut en fait rien négocier, mais rien de rien de rien. Et là-dessus, toute petite incise, Donald Trump s'est totalement cassé les dents. En tout cas, au début de son mandat, maintenant il a complètement lâché l'Ukraine, ça l'intéresse plus. Mais au début de son mandat, quand il expliquait au moment de son élection qu'il allait régler le conflit en 4 jours, il a essayé de négocier avec Vladimir Poutine. Et en fait, il s'est très vite. Et en fait, qu'est-ce qu'on observe depuis en fait l'élection de Trump maintenant
plus d'un an.
Et c'est qu'en fait, Trump lui fait des grands sourires, le reçoit en Alaska, lui fait des grands bisous et des tas de gentillesse et des caresses sous le menton. Et Poutine en face, il lui dit non. Il ne veut rien négocier. Ils veulent de rien négocier.
Donc en fait. Mais le peuple ukrainien en lui-même, donc, souhaite, ce qu'on comprend, c'est qu'il souhaite la paix, mais pas à n'importe quelle condition.
C'est
voilà,
ça,
parce qu'il y a quand même cette question-là aussi. C'est-à-dire qu'en réalité, Vladimir Poutine a aussi, de son côté, posé des demandes, parce qu'il n'est pas, il n'est pas hostile sur le principe à des négociations. Et ce qu'il dit, c'est que, en fait, il faudrait reconnaître la souveraineté de la Russie, donc sur le Donbass, sur les zones actuellement occupées, sur la Crimée. D'une certaine façon, la question qui se pose, c'est les Ukrainiens, dans le fond, le peuple ukrainien que vous avez pu rencontrer, lui, à quel prix il pose la paix, justement?
Au prix des garanties de sécurité. C'est le sujet. En fait, le sujet, c'est ce dont je vous parlais à l'instant. Le sujet, c'est les garanties de sécurité. C'est-à-dire qu'en fait, et c'est là où le bas blesse, c'est que vous avez tout à fait raison. Encore une fois, c'est ce que je disais juste avant, le peuple ukrainien, enfin, les Ukrainiens que j'ai pu rencontrer, je ne vais pas dire le peuple ukrainien, ce serait trop. Trop large.
Oui.
Je ne prétends pas avoir une vision sur 3 semaines
sociologique
totalement complète. Il y a forcément des gens qui pensent différemment. Je ne prétendrai pas avoir la vérité révélée. Ce serait absurde. Ça n'aurait aucun sens. Ce que je veux dire par là, c'est le problème, c'est qu'en fait, si vous voulez, la question, c'est les garanties de sécurité, parce qu'en fait, en réalité, quand vous dites Vladimir Poutine, il dit ok, il est prêt à négocier, mais en réalité, il dit qu'il est prêt à négocier. Effectivement, quand vous écoutez, par exemple, les prises de position, par exemple, de Maria Zakharova, qui est la porte-parole du ministère des Affaires étrangères russe, elle passe son temps à expliquer que tout à fait, nous sommes prêts à négocier, nous sommes prêts à négocier. En face, certains confrères, par exemple, font plus rendre en Russie, posent la question, ok, vous êtes prêts à négocier quoi? Alors, on est prêt à négocier, donc on est prêt à négocier, très bien, mais alors, pas la Crimée, pas le Donbass, on veut pas des garanties de sécurité pour l'Ukraine, on veut pas de puissance occidentale de réassurance, de forces armées de réassurance, on demande que l'armée ukrainienne, qui est aujourd'hui à 1,3 million de soldats, hein, c'est la plus grosse armée d'Europe, soit baissée à quasiment 100 000 hommes. Excusez-moi, ça ressemble à un dictat, ça fait penser au traité de Versailles. En fait, ils veulent négocier quoi? Ils veulent négocier quoi? Qu'est-ce que les Russes veulent négocier?
Réponse rien. Et puis effectivement, dans tous les cas,
il n'y a aucune négociation possible.
La seule manière de terminer cette guerre, c'est de toute façon qu'il y ait des garanties qui soient posées d'une façon ou d'une autre. Maintenant, vous avez aussi rencontré, Emmanuel Legesta, des combattants.
Oui.
Ukrainiens. On a et énormément parlé
des étrangers, pardon, et des étrangers aussi.
Et on a beaucoup parlé de cette guerre comme une guerre qui changeait finalement la manière dont on faisait la guerre aujourd'hui, oui. Qui introduisait plein de nouveaux paramètres. On a beaucoup parlé avec Régis Le Sommier, notamment l'utilisation des drones, oui. Notamment tout ça. Aujourd'hui, qui sont justement ces soldats ukrainiens? Est-ce que, encore une fois, les recrutements de forces, c'est quelque chose qui existe? Et à côté de ça, dans le fond, eux, quelle est leur mentalité après justement 4 années de guerre acharnée?
Alors, on va commencer step by step, si vous voulez.
On va décider. Emmanuel de Justas, on va vous faire sortir du plateau, c'est affreux.
C'est terrifiant. À force de parler anglais pendant 3 semaines, ça déteint un peu sur moi, pardonnez-moi. Étape par étape, tout à fait, merci. Alors, on va commencer étape par étape. D'abord, qu'est-ce qui a changé dans cette guerre? Déjà, je le disais plus tôt, moi, cette guerre me fait penser à 14-18, c'est-à-dire qu'en fait... 14-18, vous avez l'aviation qui commence, mais vous avez notamment très peu de combats maritimes. La marine est quasiment inexistante. C'est le cas actuellement en Ukraine. Vous avez une marine de guerre en mer Noire. Les marins, la marine ukrainienne ou russe, elle n'est pas inactive. Mais si vous voulez, c'est pas le... Pour aller très vite, 99% des combats sont des combats terrestres. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce sont essentiellement des combats d'infanterie. Les blindés, on se souvient tous des colonnes de blindés russes qui fonçaient vers Kiev au début de la guerre, qui d'ailleurs ont été très très vite détruits par l'infanterie, par l'artillerie, par les drones ukrainiens dans des embuscades, puisqu'en fait ils étaient trop concentrés, ça a été très très vite. Moi je vais pas vous dire que j'ai pas vu aucun blindé, mais presque, j'ai pas vu de blindé, j'ai pas vu d'avion de chasse. Encore une fois, ça veut pas dire qu'ils sont pas actifs, mais par rapport au reste de l'armée, des armées mobilisées. Non, le sujet, c'est maintenant, c'est des combats d'infanterie, des combats de drones, des combats d'artillerie, et surtout, c'est un combat de tranchées, c'est-à-dire que vous avez des tranchées de part et d'autre, et puis vous avez des petites unités de combattants russes ou de combattants ukrainiens qui s'affrontent. Et le sujet avec les drones maintenant, c'est en fait la vélocité et surtout la dispersion, c'est-à-dire que par exemple, en 14-18, on a tous ces images au Chemin des Dames ou à Verdun, où vous avez des sections, des compagnies entières, des bataillons entiers de soldats qui surgissent d'une tranchée, qui chargent baïonnette au canon, avec l'officier sabre à la main en tête, et qui se font décimer par les mitrailleuses, parce que trop concentrés. Et en fait, c'est exactement la même chose en Ukraine. C'est-à-dire que là, côté ukrainien, même maintenant côté russe, quand vous avez des unités qui vont chercher à, pardonnez-moi l'expression, à nettoyer la tranchée adverse, c'est ça, hein, ça y va à la grenade, ça y va au couteau, ça y va, c'est assez terrifiant. Ils sont obligés de se déplacer avec maximum entre 2 et 3 personnels, pas plus, parce qu'en fait, au-delà de 2 ou 3 personnels dans un même espace, dans un même lieu géographique, ben vous êtes trop nombreux, vous attirez l'attention du drone, le drone ennemi qui va vous prendre pour cible et qui va vous neutraliser en fait. Donc la seule possibilité pour ces soldats de rester en vie et d'être efficaces d'un point de vue tactique, c'est en fait la dispersion, la discrétion, c'est rester à couvert et surtout c'est être rapide et véloce.
Oui.
Et le sujet est là. Donc maintenant, je vous évoquais juste avant que aujourd'hui au moment où on se parle, les blindés n'étaient plus utilisés, la marine n'était plus trop utilisée, les avions de chasse n'étaient plus trop utilisés. Pour l'instant, ça peut tout à fait changer. Ça, c'est le front n'est pas figé, la situation n'est pas figée. Et je me permets d'ailleurs une petite recommandation pour ceux qui nous écoutent, qui s'intéressent à ce conflit d'un point de vue tactique. Je recommande de visualiser, d'aller voir sur la chaîne YouTube du recrutement de l'armée de terre un entretien absolument passionnant qui d'ailleurs a été mis en ligne pendant que j'étais en Ukraine, que j'ai regardé pendant que j'étais en Ukraine, d'un ancien officier de Légion, le capitaine Bro, qui a maintenant sa chaîne YouTube, et qui faisait un entretien avec un ancien colonel de l'armée de terre française, qui en fait s'était rendu en Ukraine et qui avait observé tout ce que je viens de vous décrire, la guerre d'un point de vue tactique, et la fonction, la façon dont l'armée ukrainienne, l'armée russe combattait, et les nouveaux changements de guerre. Je vous recommande d'aller voir cet entretien, c'est absolument passionnant, c'est vraiment très intéressant.
Très bien, et puis sinon, même de manière générale, vous avez aussi les entretiens avec Régis Le Sommier qu'on a réalisé sur Ligne Droite, qui sont tout aussi intéressants. Alors ça remonte un petit peu, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de l'Ukraine avec lui, mais enfin, ça l'est aussi. D'une certaine façon aussi, vous avez dit que vous aviez rencontré des soldats étrangers.
Oui, tout à fait. Alors, des combattants étrangers, il y en a beaucoup. Parce qu'en fait, l'Ukraine, manque d'hommes. C'est le sujet, c'est la masse aujourd'hui. Il faut tenir la ligne de front qui fait quand même plusieurs milliers de mètres carrés, plusieurs milliers de kilomètres de long. Encore une fois, on revient à 14-18. Hein. Le front n'est pas aussi long, évidemment, parce qu'il partait de les Ardennes, de la mer du Nord jusqu'à la Suisse. Mais là, c'est quand même très, très, très élevé. Donc, il faut des hommes pour tenir la ligne de front. Et donc, effectivement, vous avez beaucoup de volontaires, de combattants étrangers de toute nationalité. Vous avez des Français, vous avez des Britanniques, vous avez des Brésiliens, vous avez beaucoup de Colombiens. Vous avez aussi des Baltes, même des opposants russes à Vladimir Poutine qui parfois ont déserté l'armée pour venir combattre côté ukrainien, des Biélorusses aussi, des opposants à Loukachenko, l'actuel dictateur en Biélorussie. Et donc oui, vous avez tous ces combattants étrangers qui viennent servir soit en tant que dronistes, soit en tant que combattants d'infanterie d'assaut, soit en tant que médic, en tant que personnel médical. Voilà à peu près. Et ces combattants-là, ils sont intégrés à l'armée ukrainienne, ils touchent une solde exactement la même que leurs frères d'armes ukrainiens. Et voilà, ils ont le même statut, c'est pas différent. Et donc voilà, ils sont là pour. Souvent, ils ont un passif militaire. Un tel était Marines, un tel était SAS dans les forces spéciales britanniques. Beaucoup d'anciens légionnaires de la Légion étrangère française aussi. Oui. Et donc ils viennent mettre leurs compétences et leurs expertises parfois militaires au service de l'armée ukrainienne qu'on a bien besoin.
Est-ce que le front est toujours vraiment en mouvement? C'est-à-dire que aussi on se demande si une des raisons pour lesquelles on parle moins de ce sujet et il y a moins d'actualité là-dessus, c'est pas aussi tout simplement parce qu'on a l'impression que le front est un peu gelé depuis quelques semaines, quelques mois.
Alors ça fait pas plus quelques mois, ça fait même depuis l'échec de l'infiltration ukrainienne à Koursk, c'était l'été dernier.
Oui, mais après il y a eu la reprise depuis de tout ce territoire et une contre-offensive russe.
C'est ça, et là, apparemment les Russes préparent une nouvelle contre-offensive, ils sont en train de recruter massivement notamment des étrangers, notamment des Africains, et en fait ils leur promettent des fausses agences de recrutement de travail qui promettent à ces Africains du travail en Russie. En fait les pauvres Africains débarquent à Moscou, et en fait, on leur fait signer un papier en cyrillique, ils savent pas ce qu'ils signent, en fait, ils ont signé un contrat dans l'armée russe, on les chope, on les envoie dans un centre de recrutement, on leur apprend vaguement à manier la Kalachnikov, et ensuite, on les envoie directement au front où ils sont tués. Ils servent de chair à canon.
Et sur le fait que le front soit fixe...
Pardonnez-moi, oui, je vais répondre à votre question assez rapidement. Le front, oui, effectivement, actuellement, le front est figé. L'autre jour, je regardais les actualités sur Telegram, et en fait, j'ai vu, par exemple, que dans le coin de Sloviansk, Kramatorsk, donc c'est une des villes qui se trouve sur la ligne de front dans le nord, dans l'oblast de Donetsk, vous avez une unité de l'armée russe, par exemple, qui a pris 245 mètres en 10 jours.
Ouais.
245 mètres en 10 jours,
ouais.
Pour un prix humain et matériel délirant. Encore une fois, première guerre mondiale, vous avez des officiers français qui se targuent d'avoir conquis 5 cm de territoire au prix des milliers de vies, quoi. C'est la même chose.
Et pour une colline, il nous reste 3 minutes,
oui.
Emmanuel de Gestas. Est-ce qu'en 3 minutes, vous pourriez nous expliquer un petit peu quelles sont les perspectives que vous voyez pour cette guerre au niveau militaire comme diplomatique? Dans le fond, dans quel sens on se dirige, selon vous, justement, pour, quelque part, les prochains mois, voire même la conclusion de ce conflit?
Alors, moi, je suis pas mal à Mirma, je vais pas sortir ma boule de cristal et vous promettre l'avenir. Ce que je peux vous dire, j'ai déjà dit, le front est figé à ce moment-là. On est dans une partie de bras de fer. On a deux lutteurs, un russe et un ukrainien, qui se tiennent la main et qui essaient de faire écraser l'autre. Et pour l'instant, ils sont tendus et c'est quasiment la parité. Pour moi, le sujet, ça va être le soutien étranger. C'est-à-dire, d'une part, pour les Russes, les Iraniens, voir comment les Iraniens et la République islamique d'Iran, aujourd'hui, elle est en plein conflit avec les Américains. Voir comment les alliés de la Russie, c'est-à-dire la République islamique d'Iran et notamment la Chine, vont pouvoir continuer à approvisionner la Russie d'un point de vue énergétique et d'un point de vue logistique, notamment d'armement, et voir comment est-ce que ça peut continuer ou pas. Et d'un point de vue du côté ukrainien, voir si les Américains continuent à en fait les bouder et en fait à se rapprocher des Russes, et voir si les Européens peuvent continuer à monter en puissance dans le cadre notamment de la coalition des volontaires pour en fait davantage soutenir l'Ukraine. Tout le monde a suivi, j'imagine, suite à la suite de la victoire de Peter Magyar en Russie, en Hongrie, pardon, le probable déblocage des 90 milliards d'euros promis par l'Union européenne pour soutenir l'effort de guerre ukrainien. C'est une enveloppe qui est très fortement attendue par Volodymyr Zelensky.
Et parce que le budget ukrainien pourrait bien ne pas tenir aussi
Une guerre, ça coûte énormément d'argent, ça coûte beaucoup d'argent. Et donc en fait, s'ils n'ont pas le soutien, ne serait-ce que financier, des Européens, à défaut des Américains, à défaut des Occidentaux, mais au moins des Européens, ça va être compliqué pour eux de tenir dans la durée. Moi, je pense que cette guerre, en fait, elle va. Le sort de cette guerre, pour moi, il est déterminé à la fois par, du côté ukrainien, le soutien ou non des Européens, voir si la coalition des volontaires et l'Europe arrivent à se constituer enfin en autonomie stratégique européenne, hein, c'est tout le sujet, ou non, et si du côté russe, les coups de boutoir portés aux alliés traditionnels de la Russie, par exemple le Venezuela avec le renversement de Maduro, Assad, le renversement de Bachar al-Assad il y a maintenant quasiment 2 ans, enfin, il y a 1 an et demi, pardon, qui était aussi un soutien de la Russie. Hein. Et puis maintenant, même ce qui se passe au Mali, vous avez su ce qui se passe au Mali, les juntes maliennes pro-russes sont en train d'être déconfites par des Touaregs et des djihadistes. Et ça, c'est un sacré coup aussi porté à l'influence russe, parce qu'on voit que les soldats russes, qu'on nous présente comme des héros, en fait, sont très mauvais combattants. Ils sont pas capables de... Les Maliens ont dégagé les Français, mais en fait, ils les ont remplacés par des soudards incapables de juste tactiquement tenir la position qu'ils devaient tenir. Et en plus, ils se comportent comme des véritables barbares. Ils violent, ils tuent, ils pillent. Tout ça a été largement documenté. Donc voilà, je pense de mon point de vue que ce sont ces sujets-là, l'aide internationale, le soutien international aux deux camps qui va être déterminant pour la suite. Et puis, bien sûr, évidemment, la résilience du peuple ukrainien.
Et tout ça à voir, voilà, de quelle manière on pourra trouver justement un terrain d'entente pour des négociations et voir si effectivement l'Europe retrouvera un jour une voie dans la résolution de ce conflit, ce qui n'est pas encore gagné pour le moment, mais gardons espoir. Merci Emmanuel de Gestas d'avoir été avec nous ce matin.
Et
puis écoutez, sans doute qu'on vous réinvitera un petit peu sur ces questions à l'avenir.
Avec grand plaisir, merci beaucoup.
Vous aimez Radio Courtoisie, mais vous n'avez jamais, jamais donné, même pas 5 euros. Arrêtez de laisser payer les autres à votre place. Faites un don maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 Boulevard Murat, 75 016, Paris. Et vous verrez, vous vous sentirez mieux.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.
Et nous recevons désormais pour sa chronique Éric Doutrebente. Éric Doutrebente, vous êtes fondateur de Tiepolo, société de gestion de portefeuille indépendante qui gère des clients privés. Première question que vous vouliez qu'on discute aujourd'hui, c'est que nous sommes dans la période des déclarations d'impôts, c'est la joie. Quels sont vos conseils en cette matière chez Tiepolo concernant l'impôt sur le revenu ?
Alors bonjour à tous, il faut rappeler que 45% des foyers qui sont soumis à l'IR vont contribuer davantage que l'année dernière. Donc évidemment, ce n'est pas obligatoirement une bonne nouvelle pour tout le monde. 10% des foyers les plus aisés contribuent à 76% de l'impôt sur le revenu. Et évidemment, les hauts revenus vont être mis à contribution. Alors c'était exceptionnel, mais en fait c'est devenu la règle habituelle. Alors, le point important, c'est la flat tax qui va passer, qui était à 30%. C'était l'événement Macron. Eh bien, comme par hasard, on est passé sur beaucoup de revenus de 30 à 31,4 avec l'augmentation de la CSG. Il faut rappeler qu'il y a 41 millions de foyers fiscaux qui reçoivent, qui sont soumis à l'impôt sur le revenu. Et cette année, il y a quelques modifications. Par exemple, vous avez pour les faibles revenus, vous aurez pas besoin de valider votre déclaration d'impôt, elle sera automatique à condition que vous ayez rien à bouger, rien à modifier par rapport aux informations qui ont été envoyées. Dès que vous avez des réductions d'impôt ou des dons, par exemple sur l'impôt sur le revenu, eh bien là, il faudra valider son déclaration d'impôt. Déclaration d'impôt, il faut la déposer suivant le département dans lequel vous êtes, entre le 21 mai et au plus tard le 5 juin. Et donc, les éléments importants, c'est l'indexation du barème de 0,9%, donc inférieur à l'inflation. Évidemment, je le rappelle, la flat tax. Après, il y a, suite à la loi de novembre 2024 sur la loi anti Airbnb, eh bien, le plafond pour la location meublée, le plafond qui était, on devait, les montants étaient de 77 000 euros, ils sont ramenés à 15 000 euros, donc ça a touché nettement plus de personnes, et l'abattement qui était de 50% va passer à 30%. Il y a aussi une modification concernant les emplois à domicile. Alors, vous savez que cette déclaration d'impôt qui était très simple il y a 40 ans ne fait que se compliquer. C'est incroyable de voir le nombre. Alors, il y a une nouvelle case concernant les emplois à domicile où on demande encore pas mal de petites choses. Et puis aussi pour les indépendants, il y aura des nouvelles demandes. On se demande vraiment pourquoi, puisque aujourd'hui, beaucoup de choses sont connectées. Donc, les informations, on peut les avoir directement, essentiellement par toutes les déclarations qui sont faites par les uns les autres. Donc, on est vraiment étonné de voir qu'on complique une fois de plus cette déclaration d'impôt pour ceux qui ont des revenus.
Alors, qu'en est-il de l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière ?
Alors, l'IFI, eh bien, évidemment, il demeure. L'IFI, ça concerne les gens qui ont un patrimoine supérieur à 1,3 million d'euros. Mmh. Il ne faut pas oublier que l'abattement pour la résidence principale est de 30%. Évidemment, si vous avez un achat, vous avez fait un achat immobilier, mais vous avez fait des dettes, les dettes se déduisent du montant de vos 1,3 million. Donc, beaucoup de gens, il ne faut pas oublier les dettes. Et après, vous avez un moyen. Alors, je l'ai pas évoqué sur l'IR, mais c'est aussi valable pour l'IFI. C'est deux régimes un peu différents. Les dons, c'est vraiment important par rapport à vos réductions d'impôts. Donc, les dons sur l'IR, eh bien, ça, c'est limité à 20% du revenu imposable. Mais si vous le dépassez, c'est reportable 10 ans. Donc, vous voyez que si vous exagérez sur vos dons sur l'impôt sur le revenu, et ça, vous pouvez le faire tout au long de l'année. Par contre, concernant les dons pour l'IFI, il n'y a que certaines fondations qui sont recevables pour recevoir l'IFI. Et donc, là, faites attention. Et là, il faut le faire, évidemment, juste avant de payer votre impôt. Donc, il y a encore quelques semaines pour réduire votre IFI par rapport à ces dons. Donc, évidemment, on continue de compliquer la vie de nos chers concitoyens. La fiscalité augmente, mais très importante sur la CSG. Mais ce qu'il faut, c'est être bien conseillé. Donc, vous avez, entre les centres des impôts, si vous n'avez pas de choses compliquées, et puis, par exemple, chez Tiepolo, notre ingénieur patrimonial accompagne pas mal de nos clients et de nos prospects sur les déclarations d'impôts, qui est un vaste sujet. Mais il faut être bien conseillé, comme d'habitude.
Merci beaucoup, Eric Doutrebente. Bonne chance à tous les auditeurs qui, effectivement, devraient remplir des déclarations d'impôts. Et Eric Doutrebente, on vous dit à la semaine prochaine.
Bon courage.
Ligne droite, l'enfant. La revue de presse de Gilles Brochard.
Bah, il parle sur les jingles, ce monsieur Gilles.
Bah oui, on vous dit bonjour, mais c'est bien par politesse. Hein. Bon, voilà.
Bonjour Franck, bonjour Alexandre, bonjour chers Gilles. Auditeurs.
Bon, alors la presse s'enflamme après la victoire du PSG sur le Bayern de Munich.
Vous l'avez regardé ?
Non, mais j'ai suivi, mais sans regarder vraiment.
Moi, j'ai entendu les clameurs monter jusqu'à moi.
Oui, bien sûr, j'étais dans la rue, alors je peux vous dire.
Alors, football total, titre l'équipe, mais c'est Dominique Sévrac du Parisien qui semble être le plus lyrique. Un siècle de bonheur accroché au cœur, ce match de pure folie, ce sommet d'art et de culture, ce musée des merveilles du monde, cette légende pour les livres d'histoire, tout ça, point. Alors, il faudra le transmettre, le raconter encore, et qu'elle vienne peupler les nuits qui deviendront plus belles que nos jours. Voilà, le journaliste ne s'arrête pas là et ose écrire. PSG Bayern se pose d'ores et déjà comme l'une des plus belles demi-finales de la vie moderne du football, avec 9 buts, 2 montants, des rebondissements permanents, une électricité contagieuse des acteurs aux spectateurs. Voilà, la suite se déroulera le 6 mai pour la qualification à la finale de la Ligue des Champions.
Autre actualité, mais cette fois outre-Manche, la première journée du couple royal britannique à Washington.
Oui, alors Donald Trump avait mis de côté son animosité contre son allié européen, écrit le Figaro, ses sarcasmes à l'encontre de la Royal Navy, ses disputes avec le Premier ministre Keir Starmer ou ses remarques dénigrantes sur le courage des soldats britanniques en Afghanistan. Les Américains n'ont jamais eu d'amis plus proches que les Britanniques, a proclamé Donald Trump après avoir passé en revue les troupes avec le roi. Nous parlons la même langue, nous partageons les mêmes valeurs et ensemble nos soldats ont défendu la même civilisation extraordinaire sur les deux drapeaux rouge, blanc et bleu. Le président a aussi salué la mémoire de la reine Elisabeth II, la mère du roi Charles III, rappelé l'affection que portait à la monarchie sa propre mère d'origine écossaise et évoquer les liens historiques entre les États-Unis et leurs anciens souverains. Mais attention, comme le note en gros titre le Guardian, les collaborateurs de Trump s'accordent à dire que toute rencontre avec le roi se tiendra à huis clos. Et The Independent, titre, Charles est contraint de marcher sur des œufs dans le champ des mines de Trump. Avant d'ajouter, rarement une rencontre entre les chefs d'État britanniques et américains aura été aussi cruciale. Mais le succès de ce voyage dépendra moins de ce qui sera dit que de ce qui ne le sera pas. Mais Daily Mirror place en très gros titre en une envoyé de paix. Mais selon le Daily Mail, Trump serait apparenté au 15e degré de la famille royale. Leur lointain ancêtre commun aurait été un noble écossais, le 3e comte de Lennox, qui fait de Donald Trump un lointain cousin du roi Charles III. Alors cela renforce ainsi son admiration pour la famille royale, lui qui a raconté qu'il avait vu à l'âge de 6 ans le couronnement de la reine Elisabeth en compagnie de sa mère. Mais surtout au lendemain de sa visite officielle à Londres, en 2019, la reine avait été irritée par les regards qu'il jetait par-dessus son épaule comme s'il cherchait d'autres personnes plus intéressantes et peu appréciait les dégâts causés par l'hélicoptère présidentiel à ses plates-bandes. Et c'est ce qu'a raconté un biographe de la reine, Craig Brown, et qui n'a pas du tout plu à Donald Trump qui appréciait beaucoup la reine Elisabeth, la trouvant fantastique. Et Adrian Jones, dans le Figaro, écrit que Trump a étendu cette affection au roi Charles III. « C'est un homme formidable, répète-t-il. Je le connais depuis des années. C'est un homme courageux et c'est un homme formidable. »
Eh ben, et puis Valeurs Actuelles pointe du doigt le musée du Louvre et revient sur ses dysfonctionnements.
Oui, c'est en titre et en une du magazine qui sort aujourd'hui, le Louvre, chronique d'un naufrage annoncé. Alors, c'est le titre de cette enquête qui a été menée par Pauline Condomine, qui retrace toute l'affaire du vol des bijoux de la couronne, un véritable feuilleton, et pointe du doigt les failles de sécurité qui révèlent une crise de gouvernance et un affaiblissement progressif de la mission fondamentale du musée. Alors avant que n'arrive à la tête du Louvre Laurence Descartes, son prédécesseur Jean-Luc Martinez avait déjà engagé, je cite, l'élaboration d'un schéma directeur des équipements de sûreté censé fixer les grandes orientations de sécurité du musée pour les années à venir. La modernisation des infrastructures est alors évaluée à plusieurs dizaines de millions d'euros et 8 ans plus tard, en 2025, ce plan n'est toujours pas abouti. Alors la nouvelle équipe en place depuis le départ de Laurence Descartes et la nomination de Christophe Leribaud, vous savez, devra à la fois sécuriser le musée, rétablir le dialogue social et veiller au bon entretien des infrastructures. Et le nouveau directeur a plutôt bonne réputation. Il passe d'ailleurs pour être très compétent, très humain. Une compétence indispensable pour administrer un musée doté de 9 départements hors normes qui sont eux-mêmes des musées dans le musée. Et puis le rapport de la Cour des comptes a confirmé en novembre 2025 que le Louvre ne souffre pas d'un manque de moyens, mais d'un défaut de hiérarchisation de ses priorités. Et c'est bien là où le bât blesse. L'historien Didier Rickner, le patron d'ailleurs de la Tribune de l'Art, affirme que le projet de rénovation tel qu'il a été validé par l'Élysée, évalué à 1,5 milliard par la Cour des comptes, est un projet hors de prix que l'on ne peut pas se permettre aujourd'hui. Voilà, vous lirez ce dossier passionnant dans les colonnes de Valeurs Actuelles.
Et vous vouliez revenir sur le scandale de la passerelle des arts à Paris qui relie au-dessus de la Seine le musée du Louvre à l'Institut de France.
Oui, alors je ne sais pas si, Alexandre, vous avez vu récemment la vidéo de Tony Pitaro sur Instagram où l'on voyait le maire du 6e arrondissement, Jean-Pierre Lecoq, détacher une latte de ses fixations sur la passerelle des arts, montrant la dangerosité de ce pont. Car évidemment, il n'y en a pas qu'une hein, qui sort de ses gonds, si j'ose dire. Depuis, il y a interdit vélocipédiste de rouler sur ses planches. On a même vu Emmanuel Grégoire en tenue sportive deux jours après sur cette passerelle confirmer la dangerosité du lieu et dire que des travaux allaient être entrepris, mais pas tout de suite, dans 4 semaines, c'est-à-dire un mois. Bon, on a appris depuis que malgré des rafistolages en cours, la mairie a annoncé une intervention pour une durée de 8 semaines à partir du 11 mai. Alors on s'étonne quand même d'un tel délai pour rétablir une situation pour le moins désastreuse, car des milliers de touristes y passent chaque jour, hein, femmes et enfants, qui pourraient passer à travers d'ailleurs les lattes du plancher, comme dirait Cabrel. Et dans la première destination au monde, on s'interroge pourquoi il faut au moins un mois pour une telle réparation. Le Parisien qui a pris le métro en marche, le journal, hein, Le Parisien qui a pris le métro en marche, d'ailleurs sans citer Tony Pitaro, ce qui n'est pas très confraternel, consacre un article à cette interdiction au vélo mots et rappelle que la municipalité a mis en place une signalétique indiquant l'obligation de traverser en mettant pied à terre. Ce qui n'est pas tellement respecté, les journalistes du Parisien l'ont pu le vérifier. Alors je précise qu'il en coûte 135 euros d'amende à tout contrevenant. Et en plus, le chantier de 2023 avait coûté à la ville de Paris pas moins de 1,8 million d'euros pour cet ouvrage qui date, comme vous le savez, de Napoléon et qui avait été reconstruit dans les années 1980.
Merci Gilles.
À bientôt, à demain.
Zone libre.
Mais non, pas demain, vous restez avec nous.
Restez avec nous,
Gilles. 3 minutes. Vous restez avec nous, de toute façon c'est un ordre. Donc à ce niveau-là, c'est, voilà, vous n'avez pas le choix, vous restez ici à l'antenne, sinon je me retrouve seul. Non, effectivement, sur cette question du pont des arbres, d'ailleurs, très joli pont au demeurant. Enfin,
c'est une
principe,
passerelle.
Oui, une passerelle tout en bois.
C'est un clin d'œil au Moyen-Âge, en fait.
Ah,
et,
oui,
puis, ce qui est formidable, c'est cette perspective, parce qu'on sort du Louvre et vous avez, oui, la bibliothèque Mazarine en face, hein, puisque Mazarin a occupé le Louvre, il a fait un don de sa bibliothèque à ce qui allait devenir l'Institut de France, qui réunit les 5 académies, dont la première a été créée en 1635 par Louis XIII. Voilà.
Et alors justement, je trouve ça assez fascinant, le prix qui est apposé sur la rénovation de ce pont. Et encore une fois, enfin, vous l'avez dit, ça n'a duré que 3 ans quelque part. C'est-à-dire, oui, qu'en fait, finalement, il est refait en 2023,
oui,
on est en 2026, et déjà, il faut reprendre de grands travaux.
C'est un travail à la fois de menuiserie et de fonderie, parce qu'il y a des rivets. Enfin, je ne suis pas un spécialiste, mais quand on marche sur ces lattes de bois, c'est vrai qu'on sent qu'elle branle, hein, si j'ose dire. Il y avait eu déjà l'histoire des cadenas qui était embêtant parce qu'on avait copié ce qui se fait beaucoup en Chine ou ailleurs.
C'était trop lourd, oui.
C'était trop lourd. Moi, j'ai vécu ça, par exemple. J'ai vécu ça en 1999, la première fois que je suis allé en Chine, je suis allé dans les montagnes sacrées, les montagnes du Huangshan.
Quelle bravitude.
Et les Chinois avaient fleurs bleues, mettaient des cadenas quand ils étaient fiancés, donc, et puis jeter les clés dans la nature, ce qui n'était pas très écologique, parce que c'est pas le fait de mettre... Vous savez qu'au fond de la Seine, il y a les clés, parce que le principe, c'est de jeter les clés pour dire, ah ben voilà, c'est une libération, en même temps un attachement viscéral à la personne qu'on aime. Voilà, c'était ça.
Non mais c'est mignon, mais quand on voit le résultat, bon. Et à côté de ça, Slayton, ce qui est assez... surprenant, je crois que c'est le seul pont qui est dans un état aussi déplorable, non?
Oui,
pour le coup, les autres s'en tirent plutôt bien.
Il y en a quelques-uns où c'est à la pierre qui s'effrite, mais enfin, les pierres, de toute façon, on sait que Paris tombe en lambeaux aujourd'hui, tombe en lambeaux. En fait, c'est la restauration des pierres, ça dure un siècle, deux siècles, puis après, il faut restaurer.
Je vais vous dire, parce que quelque chose que je trouve surprenant, c'est que je vois toutes les rénovations qui sont faites du mobilier urbain en général, mais à peu près partout, hein, c'est-à-dire que ce soit les petits parcs, que ce soit les petites esplanades, etc. J'ai l'impression que tout est fait pour durer 10 ans ou 20 ans, enfin, durer le temps de 2-3 mandats.
Sauf le mobilier de Guimard, qui a tenu vraiment très très longtemps et qu'on a réhabilité aujourd'hui. Et même, vous voyez, toutes les corps de garde des sorties ou des entrées des métros, elles s'accrochent au temps. Hein. Et c'est ce qui fait le charme et qu'on voit souvent dans les séries américaines ou anglaises quand on tourne à Paris.
C'est le beau et le durable à la fois. C'est magnifique, c'est le bel environnement.
Il n'y a pas de ville sans esthétique.
Exactement. Merci Gilles. Et maintenant, il va falloir vous dire quelque chose, chers auditeurs. Ce qu'il faut vous dire, c'est que on va bientôt arriver à la fin du direct sur YouTube et sur X, mais qu'avant que celui-ci n'advienne, il va falloir que vous nous souteniez pour le beau et pour le durable.
Qu'est-ce que vous parlez bien, alors?
N'est-ce
là, franchement, j'ai même un peu honte de parler derrière vous,
vous avez
cher
raison.
Alexandre.
Vous savez quoi, ne parlez pas.
Voilà.
Non, bon, allez-y quand même.
Bon, alors, il faut aider Radio Courtoisie en allant sur soutenir.rc.fr, puisque Radio Courtoisie ne vit que grâce à vous, chers amis qui nous écoutez et qui nous faites l'amitié de votre fidélité. Soutenir.rc.fr pour participer au financement de Radio Courtoisie. Et je vous rappelle que si vous êtes imposable sur le revenu, eh bien, vous pouvez faire une déduction fiscale de votre don à Radio Courtoisie. 66%, c'est très important, c'est 2/3 de réduction. Vous nous donnez 100 euros, eh bien, il ne vous en coûte que 34. Soutenir.rc.fr. Merci d'avance.
Merci beaucoup et tout de suite on va écouter Pierre Larty, là honore les figures du camp patriote. C'est un entretien mené par Maïlys Clozel.
Ligne droite. Debout les Français.
Et pour ce premier entretien, je vais laisser la place à Maïlys Clozel qui reçoit Pierre Larty, porte-parole de la SLAM.
Bonjour Pierre Larty.
Bonjour Maëlys, bonjour à tous les auditeurs.
Alors aujourd'hui, vous allez justement nous parler d'une fameuse soirée que vous organisez donc avec l'association en soutien aux lanceurs d'alerte. Alors vous avez fait un petit peu la communication sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Alors est-ce que vous pouvez en premier lieu nous expliquer l'objectif de cette soirée et pourquoi est-ce que vous avez choisi de l'organiser ?
Alors avec plaisir, déjà rappelons l'objectif de l'ASLA, l'association de soutien aux lanceurs d'alerte. L'ASLA c'est une association qui a été créée il y a 5 ans et qui a pour but d'être le fer de lance judiciaire des lanceurs d'alerte des droites et de toutes les droites. L'objectif c'est quoi ? C'est d'utiliser les tribunaux pour pouvoir porter les combats de ces lanceurs d'alerte qui prennent des risques sur des sujets comme l'immigration, l'islamisation, l'insécurité, le wokisme notamment. Et depuis 5 ans, nous enregistrons un certain nombre de victoires face à des géants, notamment Meta, face au ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez. Et donc, fort de ce bilan positif de l'ASLA et de 5 années de victoires, de cette droite qui gagne, on a voulu rendre hommage à ceux et celles que nous servons, à ces lanceurs d'alerte qui prennent des risques. Et donc nous organisons pour nos 5 ans la première nuit des lanceurs d'alerte, dont l'objectif c'est un peu calqué sur le modèle des Césars, si vous voulez. On va remettre des prix à des personnalités, à des lanceurs d'alerte qui ont pris des risques et qui ont eu le courage de porter leurs idées avec derrière des risques judiciaires. Donc ils seront nombreux, issus du monde politique, issus des médias, issus des structures associatives. On a annoncé plusieurs personnes et personnalités déjà, il y en aura d'autres qui vont arriver dans la semaine. Donc c'est une grande et belle soirée qui s'annonce le mercredi 6 mai prochain.
Bien écoutez, superbe. Alors on imagine que lors de cette soirée, vous avez certainement décerné des prix assez divers. Est-ce que vous pouvez nous les dresser ?
Oui, alors on va décerner des prix des Thémis. Hein. Thémis, d'accord, c'est le dieu grec de la justice. Nos Thémis, ils vont être sur différents sujets, des lanceurs d'alerte sur le wokisme, sur l'islamisation, des structures militantes, des structures journalistiques, médiatiques. Donc on aura différents prix avec différentes interventions derrière. Voilà, l'idée, une fois de plus, c'est de mettre au centre ces personnalités qui prennent des risques et qui portent des sujets fondamentaux comme je les ai rappelés précédemment. Vous avez, j'ai écouté avec attention votre bulletin d'information et les lanceurs d'alerte aujourd'hui sont absolument nécessaires dans notre société. Regardez le travail qu'a fait Monsieur Alloncle.
Bien
Charles
sûr.
Alloncle est un lanceur d'alerte. C'est peut-être l'archétype même du lanceur d'alerte aujourd'hui pour décrire ce que c'est qu'un lanceur d'alerte. C'était quelqu'un qui pose une problématique sur la table avec toutes les complexités, toutes les difficultés, toutes les tensions qu'il y a autour, avec des pistes d'amélioration. Les lanceurs d'alerte, si vous voulez, c'est un peu comme des phares dans notre société bien sombre. C'est des points de repère qui nous permettent à la fois de nous repérer, mais aussi d'éclairer un chemin plus vertueux. Donc on a besoin des lanceurs d'alerte et on a besoin de structures comme l'ASLA pour porter aussi dans les tribunaux ces lanceurs d'alerte, parce que vous savez, le système gouverne mal mais se défend très bien. Et donc ces lanceurs d'alerte, ils font face à plusieurs dizaines de milliers d'euros et plusieurs dizaines de procédures judiciaires bâillons pour certains. Et donc on est là, nous, pour les accompagner financièrement, juridiquement, stratégiquement, médiatiquement, voilà.
Alors justement, vous avez parlé de ce rapport qui fait grincer les dents des uns et des autres de Monsieur Alloncle, et effectivement, eh bien, il y a un rôle central que les médias alternatifs, notamment, jouent au sein de notre société, et donc notamment via ce combat politique, si j'ose dire. On imagine que vous allez aussi décerner des prix, notamment sur la liberté d'informer, en tout cas c'est ce que j'ai vu sur Instagram. Selon vous, justement, donc, quel est ce rôle que les médias alternatifs entreprennent au sein de ce combat ?
Alors ce rôle, il est fondamental et vous l'avez vous-même défini, c'est la liberté d'informer et de s'informer différemment, tant sur les thématiques portées que sur les regards à poser sur ces thématiques. Quand j'écoute Radio Courtoisie, je me sens plus proche des analyses journalistiques de Radio Courtoisie que de celles de l'Humanité ou de Libération. Ça ne veut pas dire que je ne lis pas Libération, je ne lis pas vraiment l'Humanité, mais ce que je veux dire, vous avez un rôle central parce que Vous êtes un porte-voix intellectuel de ces courants de droite. Je sais que vous avez la vie dure. Certains veulent garder ce précaré. On voit autour des sujets sur l'audiovisuel public. Vous avez tout un pan de la caste médiatico-politique qui veut absolument préserver le système de l'audiovisuel public pour éviter que des médias alternatifs qui ont plus de succès tant sur le contenu que sur la rentabilité entre guillemets par rapport à l'audiovisuel public. Votre rôle, il est fondamental. Une fois de plus, une société qui n'aurait pas de contre-pouvoir médiatique serait une société absolument totalitaire. Il faut probablement un peu d'audiovisuel public, mais en l'état actuel, on a affaire à une espèce de rouleau compresseur qui n'est pas là pour informer ou divertir les Français, mais qui est là pour lobotomiser les esprits et les idées. On le voit avec des plateformes comme Slash TV, on le voit avec des émissions sur France Inter, dont la teneur politique est auprès de 2/3 à gauche, selon l'Institut Thomas More. Donc si vous voulez, vous avez un rôle essentiel, fondamental. On vous met des bâtons dans les roues, mais il faut tenir.
Effectivement, il faut tenir. Et vous, avec l'ASLA, vous tenez donc depuis maintenant 5 ans. On imagine qu'il y a eu un certain nombre d'évolutions entre aujourd'hui et le début donc, de votre association. Qu'est-ce qui a véritablement changé, selon vous, notamment par rapport au quotidien de ces lanceurs d'alerte ?
Alors, je dirais que pour moi, la principale évolution, c'est l'objectif de l'association. Initialement, c'était un bouclier. Si vous voulez, on était là pour se défendre, pour empêcher les coups. Donc, on a défendu des structures militantes, on a défendu des personnalités, mais si vous voulez, on était dans une position de défense. Aujourd'hui, on a complété cette position de défense, qui est nécessaire, une fois de plus, face à un système qui attaque durement. On a complété notre vision avec une vision plus offensive. On va rentrer dans l'arène judiciaire. On va aller se battre contre la gauche, contre les wokistes, contre les islamistes, et on va faire sauter, par exemple, des subventions à SOS Méditerranée. Hein, l'ASLA a fait sauter 2 subventions à SOS Méditerranée, l'une à Montpellier, l'autre à Saint-Nazaire, en partenariat avec un élu RN. On a eu des victoires sur Meta, un géant, si ce n'est le géant des réseaux sociaux dans le monde, eh bien, qui s'était permis et qui s'était octroyé le droit de censurer des comptes de personnalités appartenant toutes à la droite. Eh bien, plutôt que se dire « Ah mince, on est face à Meta, on va jamais avoir la possibilité de se défendre », eh bien, on y a été et on les a... on les a assignés, on les a fait plier, et donc on a restauré les comptes. Donc vous voyez, on a aussi maintenant une vocation plus offensive pour aller mettre des coups à la gauche, mettre des coups à ces mondialistes, et derrière avoir des victoires.
Alors justement, vous avez dressé donc toutes ces belles victoires que vous avez obtenues, d'un point de vue notamment judiciaire. Y en a-t-il une particulièrement qui vous a vraiment marqué, qui a au moins marqué un certain tournant au sein de l'association? Enfin, à ce niveau-là, qu'en est-il ?
Alors moi, c'est vrai que la victoire face à Meta est pour moi très révélatrice, si vous voulez, à la fois de notre état d'esprit et en même temps de l'adage « impossible n'est pas français », on l'a fait nôtre. Si vous voulez, vous êtes face à un géant qui pèse plusieurs dizaines de milliards de dollars dans le monde, face à une petite association comme nous, composée de quelques bénévoles. Et on les a fait plier et on a permis la restauration des comptes visés. Donc ça, pour moi, c'est un symbole. Je vais en citer un deuxième parce que je pense que c'est important. On a aujourd'hui des lanceurs d'alerte locaux qui nous font confiance, des gens qui prennent des risques socialement, juridiquement, financièrement à dénoncer par exemple les écoles de formation islamistes. Je pense notamment à l'IESH, vous vous souvenez, c'est cette école de formation en sciences humaines ou prétendument en sciences humaines qui est en fait une officine salafiste, qui avait ouvert une école à Nevers. Eh bien, des lanceurs d'alerte locaux, Pascal Le Petit en tête, nous ont fait confiance et se sont dit, plutôt que de porter ma voix seule dans mon coin, je vais m'associer à l'ASLA. Et donc, on a réussi à porter son message. Et je pense qu'on a été un des contributeurs sur la pression qu'on a mise sur l'IUSH pour la faire fermer. Derrière, des personnalités de premier rang se sont greffées à ce mouvement. Je pense à Marion Maréchal, je pense à Nicolas Dupont-Aignan. Donc, si vous voulez, c'est pour moi aussi révélateur de la nécessité d'une forme d'union des droites, d'une forme d'union des bonnes volontés pour gagner. Je crois que l'objectif, in fine, c'est faire gagner la droite. Point barre.
Alors, vous l'avez dit, ces lanceurs d'alerte prennent des risques au quotidien, mais il y a quelque chose qu'on remarque, hein, manifestement, c'est que l'État, finalement, ne les protège pas tant que ça. Quelles sont, selon vous, les mesures absolument phares que devrait prendre l'État pour protéger, justement, ces lanceurs d'alerte, donc notamment les lanceurs d'alerte patriotes, hein, puisque, voilà, si on considère qu'il en aurait la volonté?
Déjà, vous avez tout à fait raison. L'État ne protège pas ces lanceurs d'alerte. Je vais même aller plus loin. Sur les lanceurs d'alerte patriotes, l'État cherche à les faire plier. L'État cherche à les détruire juridiquement, financièrement, socialement, moralement. Ça, c'est une réalité. Donc, il faut résister. Je pense que la première des manières d'aider les lanceurs d'alerte qui en sont victimes, c'est de les soutenir. C'est de soutenir juridiquement. C'est d'aller au combat. Il ne faut pas fuir le combat. Il y a un combat face à un système qui est puissant, mais qui est en fin de vie. Et donc, il faut y aller. C'est dur, mais il faut y aller. Il y a des associations comme l'ASLA qui sont là pour aider, je vous dis, financièrement, juridiquement, stratégiquement, médiatiquement. Et puis, donc ça, c'est le court terme. C'est on fait front, on y va et on replie, on repousse l'ennemi. Deuxième point, aujourd'hui, il y a toute une réflexion à avoir sur un statut protecteur juridiquement, un statut de lanceur d'alerte, si vous voulez, quel qu'il soit d'ailleurs. Mais aujourd'hui, on pourrait imaginer que certaines personnalités soient labellisées. Macron aime bien labelliser. On pourrait labelliser des lanceurs d'alerte, y compris dans le camp patriote, pour que à la fois leurs propos, leurs écrits, leurs sorties médiatiques, sous couvert du respect, je dirais, de la loi d'ordre public, soient sanctuarisés. Et puis, on peut dénoncer l'immigration, ses conséquences, sans risquer de se retrouver tous les quatre matins à la 17e chambre correctionnelle à Paris. Voilà, donc je pense qu'il y a des avancées législatives à porter. On est plutôt sur du moyen long terme. Et là, on a besoin d'avoir un relais à l'Assemblée nationale pour pouvoir porter cette nécessité de changer la société française.
Alors, il nous reste deux grosses minutes, Pierre Larty. Donc, justement, vous nous avez parlé de cette soirée qui donne évidemment envie de s'y rendre. J'invite tous les auditeurs à y aller s'ils en ont l'envie. Mais quels seront les prochains grands combats de l'ASLA au-delà de cette soirée?
Alors, il y en a plusieurs. Je vais vous citer un combat qui va finir par arriver. On soutient Éric Zemmour face aux députés délinquants, complices de meurtriers, Raphaël Arnaud. Ça va être un combat, on va y aller. Et on accompagne M. Zemmour. Je rappelle que Raphaël Arnaud, avant le drame et le lynchage à mort de Quentin à Lyon, Raphaël Arnaud s'était permis de dire qu'il allait dézinguer notamment Éric Zemmour et puis tous les patriotes de manière générale. Donc, mais ça, voilà. On a d'autres enjeux et d'autres procès. Je pense notamment à Damien Rieu qui fait face des islamo-droitistes, vous savez, ces républicains qui en fait font tout pour donner des gages à gauche et aux islamistes. On en a pléthore. Il y a le soutien aux natifs, à des groupes identitaires de terrain. Voilà, donc on a des combats, on a aussi des réseaux qu'on entretient. On va être par exemple le 16 mai à Londres avec cette grande manif qui va encore rassembler peut-être plus d'un million de personnes, organisée par le lanceur d'alerte Tommy Robinson, lanceur d'alerte populaire, patriote, anglais, qui fait l'exercice de fédérer tout le Royaume-Uni sur ce sujet, avec succès. Voilà, donc, mais la première des choses, c'est notre soirée, elle s'y met. Pour la billetterie, il reste encore quelques places, asla.fr ou le jour J, à deux pas de l'Assemblée nationale, sur les quais.
Sublime. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Pierre Larty, d'être venu à notre antenne ce matin. Chers auditeurs, je me permets également de glisser que je serai aussi à Londres le 16 mai pour vous réaliser un reportage sur cette grande mobilisation organisée par Tommy Robinson. Donc voilà, j'ai très hâte d'y être et de vous filmer tout ça. Merci beaucoup, Pierre Larty. Je rappelle que vous êtes porte-parole de l'ASLA et à très bientôt.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, Ligne Droite avec Alexandre de Galzin.
Merci, chers auditeurs. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin.
Qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez mué ou quoi?
Ah non, je pense qu'on est plus sur Skyrock, pardon. On est sur Radio Courtoisie. On est sur Radio Courtoisie. Ligne Droite s'achève, chers auditeurs, désormais. Mais, il va falloir que vous restiez un petit peu, ne serait-ce que pour écouter, nos quêtes et requêtes.
Voilà, nous faisons la quête, vous avez raison, c'est exactement cela, il faut pas avoir honte, hein. Nous sommes là pour défendre vos idées, pour vous accompagner chaque jour en direct de 7h à 10h et puis aussi toute la journée et même la nuit sur Radio Courtoisie qui ne vit que grâce à vous qui nous écoutez, aucune publicité, aucune subvention. soutenir.rc.fr pour répondre à notre appel. Notez bien l'adresse soutenir.rc.fr, évidemment. Un grand merci d'avance de toute l'équipe.
Voilà, merci beaucoup. Quel sera le programme du jour pour aujourd'hui, Franck ?
Eh bien, le programme du jour pour aujourd'hui, c'est dans quelques instants au fil des pages de Benoît Mancheron, avec le sacrement dans l'Église catholique, avec Jean-Pierre Maugendre. À midi, le libre journal du Nouveau Monde d'Evelyne Josselin pour le caractère satanique de la gauche américaine. À 16h, les répliques du nouveau conservateur de Paul-Marie Couteau. 17h, le RC Mag de Jean-Étienne Poza. 17h30, notre rendez-vous quotidien. Restons courtois aujourd'hui avec Arthur de Vatrigan. Écoutez Wagner et envahir l'Iran, point d'interrogation, géostratégie et bouddhisme romantique. 19h30, le libre journal du droit et des libertés d'Olivier Tournafond. 21h30, le libre journal des débats de Charles de Meyer pour De Gaulle parmi les siens. Et puis à 23h, la soirée musicale, rendez-vous avec Aline aujourd'hui au programme des sonates pour deux violons et basse continue d'Antonio Vivaldi, dit le prêtre roux.
Merci beaucoup Franck. Et puis demain, nous, on peut déjà vous annoncer qui on reçoit.
Allez-y.
Eh bien, on va recevoir Yann Bali qui nous parlera du Liban, le général Trinquant qui viendra à cette antenne pour évoquer eh bien, un peu tous les conflits actuels. Et puis enfin, à 8h20, nous recevrons Jérémy Stubbs qui nous parlera de l'Angleterre. Donc demain, matinale géopolitique. J'espère que ça vous intéressera, chers auditeurs. J'aurai en tout cas grand plaisir à l'animer. Ce sera la dernière de la semaine. Et je ne vous dis pas à vendredi parce que demain, c'est jeudi.
Eh bien, à demain, 7h par contre.